Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous parlons du désarmement des groupes d'autodéfense au Mali suite à la crise sécuritaire qui a éclaté dans le pays en 2012 et à l'absence de l'État. Des communautés locales se sont organisées en créant des groupes d'autodéfense pour assurer leur protection face aux attaques. Ces milices sont aujourd'hui présentes dans beaucoup de localités en proie à l'insécurité. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta s'était engagé à les dissoudre sans y parvenir il y a quelques semaines, alors qu'il recevait les forces vives de la nation pour la présentation des vœux. Le président de la transition a annoncé le désarmement prochain de tous les groupes d'autodéfense dans le pays. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? Que pensent les communautés locales de la question? On en parle avec nos invités, Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S, Baba Kassougué, secrétaire adjoint au conflit de l'association Guinadougon, et Mohamed Mamata Touré, il est le président de l'association Anko Mali. Ce grand dialogue sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue.
Le grand dialogue.
Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais tantôt, le président de la transition l'a évoqué lors de sa rencontre avec les forces vives de la nation. Les groupes armés d'autodéfense sur l'ensemble du territoire seront désarmés très prochainement, le 15 janvier aussi, soit quelques jours après cette annonce du président de la transition à Bandiagara. Le gouverneur de la région a également abordé le sujet avec les forces vives de la région. Le colonel-major Olivier Diassana a exhorté les groupes d'autodéfense de rendre leurs armes quand les opérations vont commencer. Plus de détails avec Ousmane Yalibouli.
Le colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Bandiagara, a assuré que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du processus de désarmement. Le chef de l'exécutif régional a exhorté le groupe d'autodéfense de rendre leurs armes quand les opérations vont commencer, tout en rassurant que ceux qui le souhaitent et qui répondent aux critères vont intégrer l'armée. Quelques jours avant cet appel du gouverneur, le président de la transition l'avait aussi annoncé lors de la cérémonie de présentation des vœux aux forces vives de la nation. À Bandiagara, la nouvelle est diversement accueillie au sein de la population. Certains la salient et pensent qu'elle pourrait mettre un terme à l'insécurité, alors que d'autres pensent le contraire et ne sont pas favorables au désarmement des groupes d'autodéfense. Ce n'est pas la première fois que le désarmement des groupes d'autodéfense est annoncé au Mali. En 2019, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'était engagé à désarmer les milices d'autodéfense présentes sur les territoires, un engagement qu'il n'a pas pu tenir. Rappelons que le désarmement des groupes armés fait partie des recommandations du dialogue intermalien tenu en 2024.
Alors, Mohamed Mamata Touré, en l'absence de Baba Kassougué, qui, j'espère, va nous rejoindre d'un moment à l'autre, qui est membre de l'association Guinadougon, une association de communauté Dogon, où le pays Dogon, c'est une région où sévissent beaucoup de ces groupes d'autodéfense, où existent beaucoup de ces groupes d'autodéfense. Mohamed Mamata Touré, vous, en apprenant cette nouvelle des autorités de vouloir désarmer tous les groupes d'autodéfense, quelle a été votre réaction?
Ok, merci Monsieur Gadjigo. En apprenant la nouvelle de la déclaration des plus hautes autorités de ce pays, donc je l'ai accueilli comme une très bonne chose, mais il y a un mais. Le mais est qu'on ne peut pas désarmer des milices sans ne pas pouvoir faire des travaux, un travail au préalable. Et ce travail préalable, c'est quoi d'abord? Il faut essayer d'identifier toutes les milices et puis après les identifications, donc maintenant, et essayer de mettre en place un projet d'insertion. Si vous voulez désarmer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Et même avant d'arriver jusque-là, avant de désarmer les milices d'autodéfense, il faut au moins savoir sécuriser les zones dans lesquelles ils sont en train d'évoluer. Donc ce n'est pas que dans la grande ville de Banyangara où le gouverneur de Banyangara a fait une déclaration. Donc il y a des petits villages d'à côté qui sont là et qui pendant des années sont sécurisés par ces milices d'autodéfense. Et on ne voit aucune présence de l'armée dans ces différentes localités, dans cette zone du pays Dogon. Et même en dehors, ce n'est pas que le pays Dogon seulement. Si vous partez dans la zone du Massina, Djéné, et jusque vers Nyono, et jusqu'au un peu vers le nord, vous allez trouver qu'il y a différentes milices d'autodéfense qui sont là pour sécuriser leur village. Donc à chaque fois, il y a des terroristes qui viennent pour tomber sur ces gens aussi. Donc maintenant, la déclaration, elle est la bienvenue. C'est pourquoi je dis il y a un mais. Donc le mais, c'est le travail préalable qu'il faut savoir faire. Est-ce que l'identification a été faite? Est-ce qu'il y a un projet qui a été élaboré pour réinsérer ces gens-là? Est-ce qu'ils sont... Parce qu'on a vu à un moment là, sous l'ancien régime, à Soufrelaye, ils avaient désarmé à peu près 300 jeunes pour essayer de les réinsérer dans la vie, dans la vie comme les autres là. Donc, mais ces gens n'étaient pas là pour être intégrés dans l'armée. Donc, c'est des petits projets qui étaient là. Donc, après leur formation, on a vu que ces gens ont été laissés à eux-mêmes et ils ont formé un autre groupe en disant que le responsable qui était devant eux les avait vendus. Donc maintenant, et si ils ne prennent pas les dispositions qu'il faut, ces jeunes gens qui sont là, dont ils vont récupérer les armes, ils vont encore tomber dans une autre chose, peut-être même aller vers les terroristes.
D'accord. Pour vous, il faut des préalables. Alors, docteur Ali Tunkara, vous, en tant que chercheur spécialiste des questions sécuritaires, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée du nombre de groupes d'autodéfense ou bien des localités, des régions plutôt, où ces groupes-là sont beaucoup plus présents?
Merci pour la question. C'est vrai que ça va être un peu difficile d'avoir des chiffres relativement approximatifs, mais on peut effectivement partir d'un certain nombre de poches, avancer des chiffres communiqués par ces mêmes groupes d'autodéfense. Rappelons quand même, ça a été dit par M. Touré, sont des groupes qui sont nés dans un contexte où l'État était par endroits soit faiblement incarné par les éléments des forces de défense et de sécurité ou quasi absent. C'est dans ce contexte que beaucoup de groupes d'autodéfense ont vu les jours. Mais au-delà de la légitimité ou de la non-légitimité de leur création, lorsqu'on prend vers Dorofri, par exemple, toutes les localités de Nyono, effectivement, nous avons une certaine cohabitation entre les groupes radicaux violents avec les référentiels musulmans, donc les hommes de Hamadou Koufa en particulier, qui ne sont pas loin, justement Farabougou par exemple, toutes les localités de Farabougou, nos auditeurs et téléspectateurs se souviennent, sont des localités qui sont majoritairement investies par les groupes radicaux violents, mais vers Dorofiri déjà vous avez des milices d'autodéfense. Maintenant, pour répondre à votre chiffre par exemple, si vous prenez toutes les localités dites des Massina, on avait au départ en moins 2000 milices, ou 2000 éléments qui pourraient être considérés comme des groupes d'autodéfense. Mais lesquels 2000, selon mes dernières informations, à force de connaître des dissidences à l'interne, à force aussi d'être acculé par d'abord les éléments de forte défense de sécurité, mais surtout par des groupes radicaux violents, parce que ce sont des affrontements très meurtriers entre ces groupes d'autodéfense et les éléments terroristes dans ces différentes localités. Donc aujourd'hui, de 2000, on a à peine 5 personnes qui restent actives, par exemple. Ouais, donc, pour vous dire, la dégringolade avec laquelle le nombre s'est réduit nettement. Lorsqu'on glisse un peu du côté Banyangara, voilà, Djenné, aller vers Sumpi, naturellement, on se rend compte que, au-delà d'avoir, à défaut d'avoir des chiffres approximatifs, et tous les centres urbains aujourd'hui, selon mes dernières informations, sont absents de groupes radicaux violents parce que les différentes unités de la garde nationale ont eu des accrochages très violents avec beaucoup de ces groupes d'autodéfense qui ont fui, beaucoup ont fini soit par intégrer les éléments de force de sécurité à travers les différents programmes spéciaux de désarmement, de réintégration ou de réinsertion qui ont été initiés avec les militaires au pouvoir à l'endroit essentiellement des populations des régions dites centre du Mali, soit certains ont aussi trouvé la mort à la suite des affrontements avec les groupes terroristes. Et on a aussi les deux semaines passées, si vous étiez un peu attentif aux informations, à l'actualité, c'est vrai que Banyangara, justement Mopti, l'axe était quasi miné par des attaques sporadiques de la part de ces groupes radicaux violents, mais il y a 10 jours de cela aujourd'hui, quasiment, l'armée est parvenue, selon des informations qui nous viennent du terrain, à déloger tous ces groupes, qu'ils soient de la milice ou qu'ils soient de la nébuleuse terroriste. Donc, en somme, des nombres sont difficiles à déterminer, mais les groupes d'autodéfense aujourd'hui ne sont observables que dans le monde rural. Tous les centres urbains aujourd'hui sont à peu près désertés de ces groupes, même vers Sio, effectivement. On a aussi certaines communautés qui ont accepté de pacter avec des groupes radicaux violents. Lesquelles communautés aussi sont en conflit avec les autres communautés qui n'ont pas accepté de s'inscrire dans ces accords verbaux, dans ces accords de survie dont, que certains qualifieraient. Donc voilà, des groupes d'autodéfense qui sont nés dans des contextes très particuliers, qui ont aussi des profils très variés, variables, mais lesquels groupes, en général, sont affaiblis à la fois à la suite des dissidences à l'interne, mais surtout du comportement par endroit. Paix orthodoxe, les leaders de ces différents groupes ont aussi amené beaucoup à déserter, voilà, de façon un peu succincte, la cartographie qu'on pourrait dresser de ce groupe d'autodéfense, et en particulier dans les régions du centre du pays.
Justement, vous avez parlé de communautés. Quelles sont aujourd'hui les rapports entre ces groupes d'autodéfense et les communautés qu'ils prétendent sécuriser? Est-ce qu'il y a des gens au sein de ces communautés-là à qui ces groupes-là obéissent?
Non, la question est pertinente. C'est vrai que le reportage du collègue l'a mis en évidence. Les communautés sont aussi divisées dans certaines contrées. Ce groupe d'autodéfense bénéficierait d'une certaine légitimité par le fait qu'ils sont parvenus à combler le vide laissé par l'État en termes de l'offre et la demande de sécurité. Mais dans le même temps, dans certaines contrées aussi, ce sont ces mêmes groupes aussi. Les communautés vous diront qu'ils sont même à l'origine des différentes attaques, des différentes attaques dont les forains sont victimes, dont même les bergers sont victimes, ou les agriculteurs. On peut même étendre les mêmes perceptions sur l'axe Ansongo-Gao, où beaucoup de populations des Menaka, des Gao, d'Ansongo, vous diront que les différentes attaques, en particulier sur les axes principaux empruntés par les communautés riveraines, viendraient essentiellement des groupes d'autodéfense, donc quand on est dans les régions du Nord, de groupes qui s'autoproclameraient proches de Bamako, tu sais qui est la plateforme. Donc pour dire que des perceptions sont certes à nuancer, mais majoritairement, plus ces groupes venaient à se perdurer, moins les perceptions sont positives. C'est ce qu'on pourrait un peu, en tout cas, arriver comme conclusion lorsqu'on mène des enquêtes sérieuses dans ces localités, partout où ces groupes avaient été salués. Ils ont fini par ternir leur image par des raquettes, par des spoliations. C'est combien, même, c'est quand même important comme élément aussi. Quand on prend quand même le gloufard d'Anna Massagou pour le cas du centre, par exemple, il a été scindé en deux sous-groupes. Le groupe d'Anna Atémé, qui a même accepté dans certaines contrées de pactiser avec le groupe radical violent, répondant au nom de Hamadou Koufa. Donc, pour dire que déjà au sein de ces différents groupes d'autodéfense, des sérieuses tensions persistent. L'armée étant sérieusement aussi engagée à les réduire au silence, même si cette même armée aussi les utilise comme des éclaireurs, il faut être aussi nuancé, dans certaines localités. Mais globalement, le discours du président, ou l'annonce du président, on sent qu'effectivement a des répercussions sur ce groupe dans les régions du centre du pays.
Alors Mohamed Mamata Touré, vous êtes président d'une association, d'une organisation de la société civile. Vous êtes souvent très proche des populations locales. Est-ce que vous, avec les retours que vous avez auprès des différentes populations, est-ce que vous pensez que ces groupes-là sont toujours utiles? Est-ce qu'ils servent à quelque chose en termes de sécurisation, en termes de protection des personnes et de leurs biens?
Bon, je crois que ces groupes sont toujours utiles parce que s'il y a l'absence de l'État et que la population n'a pas d'autre choix que de se faire protéger par ses fils, par ses enfants, donc je crois que les groupes jouent leur rôle. Mais comme l'a dit M. Tunkara, il y a beaucoup de problèmes dans ces différents groupes milices aussi. Parce que quand nous faisions les tournées dans les régions de Mopti et puis de Ségou, nous avions rencontré beaucoup de problèmes de ce genre. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont des groupes d'autodéfense pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Mais c'est des gens aussi qui s'adonnent à des scènes de banditisme, d'enlèvement de bétail et même de prise d'otages, souvent en disant aux gens, si vous ne payez pas tel ou tel, on ne va pas libérer vos personnes qui ont été prises. Donc maintenant, ça a ses avantages comme ses inconvénients. Donc maintenant, c'est à l'État de s'assumer.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, les inconvénients sont plus importants que les avantages? Si on vous demandait de faire une comparaison.
Bon, les inconvénients sont plus choisis que les avantages parce que aujourd'hui, la population veut la présence de l'armée malienne chez eux. Parce que la population ne saurait être en confiance que s'il voit la présence de l'armée malienne. Parce que l'armée malienne ne va pas essayer de les imposer quoi que ce soit comme raquettes ou bien vous allez donner des bœufs, vous allez donner des riz pour nous appuyer afin que nous puissions avoir à manger afin de vous sécuriser. Donc l'armée, elle est là pour tout le monde et l'armée n'impose rien à qui que ce soit comme aide aux dons ou dons. Et puis d'autres autres choses aussi. Vous savez, entre les milices d'autodéfense de certaines localités aussi, il y a des diversions, des tendances qui sont là. Il y a des mésententes. Donc il y a d'autres qui se disent des milices. Et s'ils voient que d'autres sont en train de faire des petits trucs seulement, même s'ils ne sont pas dans un coup dont ils chose, il y a des dénonciations par-ci, par-là, en disant que ces gens sont en train de composer avec les terroristes. Souvent, on trouve même qu'il n'y a aucune véracité dedans. Quoi. Donc, c'est un problème quand même. Si l'État parvient à s'assumer et à jouer son rôle régalien, je crois que ça serait encore plus mieux que de laisser ces milices faufiler entre la population.
Alors, c'est une grande annonce. C'est pas la première fois qu'on le fait. Je le disais tantôt au début de l'émission que l'ancien président Faye Ibrahim Boubacar Keïta s'était engagé à le faire suite au massacre qui était survenu dans certaines localités du centre. Mais il n'a pas pu le faire. Et on ne sait pas pourquoi. Docteur Ali Tunkara, et qu'est-ce qui pourrait rendre difficile aujourd'hui le désarmement ou la dissolution de ces groupes d'autodéfense?
Alors, lorsqu'on évoque ces groupes, il faut à la fois être réaliste, pragmatique, idéaliste. Réaliste, est-ce que l'armée a-t-elle aujourd'hui le nombre requis d'hommes pour un maillage sécuritaire bien équilibré? De façon simple, est-ce que l'armée malienne peut-elle aujourd'hui, 2025, assurer l'offre et la demande de sécurité des cahiers à Kidal, sans avoir recourir à des acteurs autres que militaires. Alors là, on est dans le réalisme seul, l'état-major peut répondre à cette question. Maintenant, pragmatique, M. Touré le rappelait tantôt, il y a eu des périodes où l'offre de sécurité, et même celle de défense, n'était pas délivrée comme service par l'État central. De cette absence de la délivrance de ces services de sécurité et de défense, des communautés se sont mises ensemble pour assurer leur propre sécurité. Est-ce que, au nom de ce réalisme, l'État ne doit-il pas procéder non seulement par une cartographie actualisée de ces groupes d'autodéfense dans le territoire, mais également de voir, c'est vrai que beaucoup d'entre eux aussi, les éléments des différents groupes, ne veulent intégrer que l'armée, que les différents corps de l'armée. Est-ce que parmi tous ces nombres, lesquels peuvent être incorporés, que ce soit dans la police, dans l'armée de terre ou l'armée de l'air, tout ce qui s'ensuit. Et là, c'est vraiment du réalisme. Maintenant, il y a l'idéalisme. On est d'accord que tout État souhaiterait avoir le seul, la légitimité de recourir à la violence, hein, ce qu'on appelle justement la violence symbolique. C'est l'État est censé exercer cette violence symbolique. Mais sauf que on est dans l'idéal. Et n'oublions pas que l'État du Mali est engagé dans un conflit asymétrique. On est tantôt bité aux exactions venant de groupes indépendantistes, tantôt celles justement engagées par des groupes d'autodéfense, tantôt par des groupes terroristes. Donc lorsque un pays se trouve ainsi perturbé par des entrepreneurs de la violence, c'est bien l'idéalisme, qu'il soit alpha ou oméga en termes de prestation des services de défense et de sécurité, mais l'étendue du territoire, les efforts de recrutement en cours, l'éloignement des centres urbains à certaines contrées du territoire sont entre autres des éléments qui doivent nous amener à ne pas succomber justement au charme de l'idéalisme qui consisterait seul, il faut désarmer toutes les milices, il faut désarmer tous les groupes armés, qu'ils soient de la plateforme ou qu'ils soient des mouvements communautaires. Je pense que quand on est sur le terrain, on est plutôt tenté de privilégier l'approche pragmatique, celle des réalistes pragmatiques, de voir quelles sont les poches aujourd'hui où l'armée, à défaut des maillages sécuritaires équilibrés, puisse s'appuyer, ne serait-ce que de façon périodique, sur un certain nombre d'éléments de ces groupes, tout en évoluant sous le commandement de l'armée. Donc je pense que ce réalisme est nécessaire. On sait que ce soit le Congo aujourd'hui ou que ce soit même des localités comme Afghanistan ou des localités où l'on connaît, qui connaissent des tensions dans la durée, l'État, par endroit et par moment, a forcément recouru à des services d'autres acteurs, autres que les acteurs légitimement connus par les textes. Donc d'où d'ailleurs toutes ces questions des milices, toutes ces questions justement des mercenaires, toutes ces questions d'armées.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le revers de la médaille aussi dans ce sens? Est-ce que ces groupes-là ne compliquent pas souvent aussi la tâche à l'armée lorsqu'elle veut mener certaines opérations?
C'est une des raisons qui expliquerait pourquoi le président Goïta entend mettre un terme irrévocable à la présence de ces groupes d'autodéfense. Parce qu'effectivement, plus l'on arrive en tant qu'acteur privé à délivrer des services de sécurité, plus on est tenté de se passer de l'État. C'est ça le piège, justement. On a vu avec Hezbollah au Liban, effectivement, qui est né aussi dans un tel contexte de conflit, lequel le groupe d'autodéfense ou laquelle milice a fini par se substituer à l'État. Je pense que les autorités veulent surtout se mettre, elles veulent prémunir à cela. Comment anticiper à ce que ce groupe d'autodéfense ne soit pas davantage dans ce sentiment de se passer de l'État et de là, de se substituer à l'État. Du moment où l'on prélève des impôts, du moment où l'on impose des taxes à payer, du moment où des checkpoints sont détenus par des groupes, du moment où même des attestations sont délivrées pour accéder à des zones aurifères, naturellement, les fonctions qui reviennent à un État normal sont de plus en plus exercées par ce groupe d'autodéfense. Donc je pense que les craintes qui sont exprimées par l'État central sont tout à fait justes, mais lesquelles craintes, il faut beaucoup les traiter avec réalisme et non uniquement avec idéalisme.
Ok, Mohamed Mamata, docteur l'a dit, hein, il faut être réaliste. C'est vrai, il suffit d'annoncer qu'on va désarmer les groupes, mais il faut aussi trouver les moyens de le faire. On a parlé de ces nombreux groupes, même si certains ont des effectifs réduits maintenant, mais il y a quand même des éléments qui sont dans ces groupes. L'État est appelé à trouver les moyens pour absorber au moins ces éléments-là. Est-ce que vous pensez que c'est faisable aujourd'hui? L'armée peut-elle, en tout cas, prendre en charge tous ces éléments? Ou bien, que faut-il faire? Est-ce que l'État a les moyens de réinsérer ces gens qui seront désarmés dans la vie socio-économique?
Bon, ce n'est pas que l'armée, c'est l'État même qui n'a pas les moyens de pouvoir jouer tout ce rôle. Parce que le rôle ne peut pas être joué s'il n'y a pas d'argent. Tout est question d'argent. Et aujourd'hui, tout un chacun sait les difficultés que ce pays traverse aujourd'hui en matière d'argent. Donc, tous les milices d'autodéfense qui sont là, ils ne peuvent pas être tous des militaires, des policiers, des gendarmes ou autres. Il y en a qui doivent être réinsérés dans d'autres choses.
L'État n'a pas le moyen de faire ça, est-ce que ce n'est pas un risque, un danger de désarmer des gens qui, en tout cas, qui n'ont fait que ça pendant des années et après on les laisse comme ça, ils n'ont rien à faire. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller grossir les rangs des groupes radicaux violents, par exemple?
Voilà, c'est ce qu'il faut craindre surtout. Par exemple, je prends l'exemple sur la zone de Massina. Le chef des Dozo qui était là-bas, qui sécurisait à peu près une cinquantaine de villages, depuis son arrestation et qu'ils ont désarmé ces hommes, tous les villages qui étaient sous son contrôle sont tous vides aujourd'hui. Donc maintenant, et ces jeunes qui étaient avec ce chef de chasseur, ils sont où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que les petites choses, comme on dit là, les coupeurs de route et autres là, ou bien des gens qui vont pour voler des bétails quelque part là, est-ce qu'il n'y a pas des gens parmi ceux-ci qu'ils ont désarmé, qui font partie de ce petit réseau de banditisme? Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut qu'il y ait un travail au préalable d'abord. Donc maintenant, on ne peut même pas prendre ces gens pour les intégrer dans l'armée. Pour qu'ils soient intégrés dans l'armée, il faut qu'ils soient recensés. S'ils sont recensés, il faut qu'on voit aussi ceux qui sont aptes à le faire. Et ceux qui sont aptes, par exemple, supposons que c'est 2000, aujourd'hui, l'armée compte combien d'éléments? Et chaque fois, les recrutements qui se font, ça vaut combien d'hommes? Donc maintenant, ces gens qui sont là. Donc comment vous allez procéder pour essayer d'intégrer certains dans le corps et puis d'autres, les financer des petits projets pour qu'ils puissent évoluer? Sinon, le risque est là. N'en doutons même pas, si les choses ne seront pas mises dans leur contexte, il va y avoir un dérapage. Ça, il n'y a même pas de souci.
D'accord. Monsieur Kasogé Baba vient de nous rejoindre. Il est de l'association Guina Dogon. Il est le secrétaire adjoint chargé au conflit. Alors, monsieur Kasogé, vous êtes d'une association de communauté Dogon, le pays Dogon. On sait qu'il y a des groupes d'autodéfense dans cette partie du pays. Comment vous avez accueilli cette annonce, en tout cas cette volonté des autorités de désarmer tous les groupes d'autodéfense sur le territoire?
Bien, merci, monsieur Gadjigo. J'ai toujours tendance à dire ouais, galo. Monsieur Gadjigo, je vous remercie. Donc bonjour à tout le monde. Je m'excuse de ce retard-là.
Oui.
J'ai compris que c'était vers 15h.
Oui.
Donc avec toutes mes excuses pour ce léger retard-là.
J'ai accepté.
Merci. Donc par rapport à ces groupes armés d'autodéfense, surtout dans la zone du pays de Gom. Il faut se dire que ce mouvement armé a pris les destinées du pays de Gom en main, en réalité. Parce que dans le temps, le représentant de l'État n'y était pas. Je parle sur le plan sécuritaire, la défense. Les Dozo, bien sûr, naturellement étant armés, pour raison de chasse, ont joint l'utile à l'agréable. Donc, la sécurisation de leur milieu. Voilà pourquoi ils ont voulu quand même prendre les armes, garder les armes pour la sécurisation du milieu. Bon, maintenant, l'État voudrait les désarmer. Il n'y a aucun problème. Force reste à la loi. Seul l'État est en devoir de gérer la gestion sécuritaire de son pays, du peuple. Si l'État veut désarmer les milices, il n'y a aucun problème. Mais il y a un préalable. Le peuple, qu'est-ce qu'il cherche ? C'est la sécurité. Si l'État sécurise le peuple, il n'y a aucun problème.
Mais est-ce que les milices parviennent à jouer ce rôle-là aujourd'hui convenablement? Est-ce qu'elles n'ont pas, en tout cas, changé, oublié un peu leur mission première qui est de sécuriser les populations, puisque, on l'a dit ici, certaines mettent des checkpoints n'importe comment, certaines prélèvent des zakats ou certains prélèvent en tout cas de l'argent sur les populations. D'autres même font, établissent des documents pour que les populations puissent avoir accès à certains sites aurifères. Peut-être ça, c'est un peu plus au nord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, certaines milices ne se sont pas détournées de leur mission?
Bon, je crois que jusque-là, certaines milices armées au niveau du pays de Gon est encore sur la droite ligne.
Elle reste toujours utile.
Je crois bien. Jusque-là. Quand bien même qu'à certains moments, il y a des dérapages. Mais est-ce que cela doit être mis, ce dérapage, au compte de la milice? Parce qu'une fois que nous sommes dans une certaine situation, maintenant, c'est le sauve qui peut. Il y a des bandits qui peuvent s'insinuer là-dedans. Et maintenant, faire porter le chapeau aux milices armées. Ça existe.
Okay.
Et nous avons vu, en certains moments, des civils qui ont pris les tenues d'Ozo et allaient commettre des forfaits au nom des d'Ozo. Mais une fois qu'on les appréhende, eh bien, il y a la punition qui s'ensuit.
D'accord.
Ça, c'est au niveau de la milice armée.
D'accord. Docteur Ali Tunkara, et ces localités, ces régions où sont présents ces groupes armés, est-ce que c'est des régions vraiment qui ont pu retrouver un minimum de sécurité grâce à ces groupes armés-là?
Alors, comme je le disais à l'entame de mon propos, lorsqu'on regarde le contexte dans lequel ces différents groupes sont nés, on ne peut pas justement leur enlever cette utilité sociale précaire dont ils ont fait l'objet dans certains endroits. L'objectif initial consistait à sécuriser les territoires et les populations qui y habitent. Mais globalement, avec l'évolution du temps, ce n'est pas propre au seul groupe d'autodéfense au Mali. On a vu ce dessus partout où le groupe d'autodéfense venait à se perdurer. Naturellement, ce sentiment de se passer de l'État, ce sentiment de remplacer l'État, ce sentiment de voir les populations comme l'autre, c'est une réalité. De ce fait, au-delà des divisions qui sont propres au sein de ces différents groupes d'autodéfense, les communautés majoritairement ont une lecture nuancée aujourd'hui quant à l'utilité de ces groupes d'autodéfense. Même si Au départ, quand on se réfère à des études menées par des institutions comme Courageous Group, Institut d'études de sécurité et d'autres instances, les communautés, même par l'école de maintien de la paix à travers des financements des PNUD, les communautés avaient des perceptions positives de ce groupe. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que ces mêmes communautés pensent que beaucoup de forfaits seraient liés à ce groupe d'autodéfense. Et d'ailleurs, par endroits, ce sont ces mêmes groupes qui ont même attisé ce qu'on pourrait qualifier de conflits locaux ou les tensions entre les communautés. Parce que si vous les prenez, qu'on soit dans les régions du Nord, qu'on soit celles du Centre, naturellement, ce sont des groupes qui sont essentiellement composés à partir d'obédience communautaire ou sur des bases, même à la limite, c'est l'ethnicité. Il va de soi qu'on tombe dans la discrimination, il va de soi qu'on tombe dans le rejet, il va de soi qu'on tombe dans nous et les autres. Donc, partant de ce postulat, au-delà de l'utilité.
Justement, est-ce que cela ne rend même pas difficile ce processus de réconciliation, en tout cas sur lequel les autorités sont en train de travailler aujourd'hui? Est-ce qu'avec ces nombreux groupes, souvent qui s'identifient à des communautés, est-ce que ça ne peut pas rendre difficile ce processus-là?
C'est vrai que c'est ce sentiment d'absence de l'État ou de l'utilité sociale de l'État, effectivement, même si nous sommes tous à leur place, on allait penser à comment se prémunir des attaques de l'autre. Ça, ça fait partie de l'instinct humain, de se protéger contre l'autre. Mais effectivement, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, une des insuffisances des différentes initiatives engagées, à la fois par les communautés elles-mêmes, mais également par l'État central, résiderait dans le fait que, de plus en plus, le conflit a quand même un habillage communautaire. Le conflit a fini par prendre un étiquetage religieux. Le conflit a même fini par prendre un étiquetage géographique. Et d'ailleurs, si vous êtes avec d'autres communautés autres que Dogon, ces communautés sont très réticentes que des territoires ou des terroirs soient appelés pays Dogon, même si l'appellation ne suscitait pas des remous dans les temps, mais au-delà du contexte, pour dire que plus des groupes sont constitués sur des bases communautaires, sur des bases géographiques, naturellement, on tombe dans la polarisation, eux et nous. Donc naturellement, les efforts auront du mal à avoir un ancrage, les efforts auront du mal à obéir sous le dictat de l'État central.
D'accord. Alors, Monsieur Khashoggi, on l'a dit tantôt, ces groupes armés, ils sont utiles, ils ont joué un rôle. Aujourd'hui, si l'État décide de les désarmer, peut-être que l'État sait qu'il peut combler le vide que ces groupes-là vont laisser. Est-ce que vous, depuis quelques temps maintenant, ces dernières années, où on parle de la montée en puissance de l'armée qui a repris le contrôle de beaucoup de localités et l'armée qui s'équipe, qui mène des opérations, est-ce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça vous rassure que, bon, même si ces groupes armés, ces groupes d'autodéfense ne sont pas là, l'armée peut aujourd'hui nous sécuriser? Est-ce que c'est rassurant pour vous, ce que vous voyez aujourd'hui?
Monsieur Khashoggi, c'est bien rassurant. Et je saute directement sur le mot. Hein. C'est rassurant. Et c'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas plus. Et nous voyons quand même ce qui se passe. Tout ce que l'État pose maintenant actuellement, ou comme sur le plan sécuritaire, nous le vivons. Nous le sentons. Dans le temps, ce n'était pas ainsi. La raison pour laquelle nous avons tenu quand même à garder les armes. Mais puisque l'État veut quand même prendre la sécurisation en main, il n'y a aucun problème.
Donc et nous l'avons toujours souhaité. Pour vous, c'est facile de convaincre ces milices-là aujourd'hui de déposer les armes. Hein.
Mais les milices même sont d'accord. Les milices sont d'accord pour déposer les armes à condition que l'État soit là. Si l'État est là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune raison que ces milices détiennent les armes. Il n'y a aucune raison. Ça a été dit. Ça n'a pas été caché à quelqu'un.
Alors, pour vous, c'est le seul préalable. Hein. Vous parlez de préalable. Ou bien pour vous, c'est... Voilà, il faut que l'État donne l'assurance qu'il sera présent en cas de désarmement de ces groupes-là. C'est le seul préalable.
C'est le seul préalable. Il n'y a que ça. C'est tout ce que nous cherchons. Parce que la défense de la population, ça revient à l'État. Ça revient à l'État en réalité. Nous, nous le faisons parce que nous ne voyons pas la présence de l'État. C'est la seule raison. Et si l'État est là, il n'y a aucune raison que nous, nous soyons quand même restés armés.
D'accord. Mohamed Mamata, je le disais tantôt, des actions sont en train d'être menées par l'armée qui est en train de se renforcer, mais aussi de reprendre le contrôle de beaucoup de parties du territoire. Est-ce que pour vous, ça peut être une garantie pour ces groupes armés-là d'accepter le désarmement ?
Oui, ça peut être une garantie, ça doit même être une garantie pour ces groupes armés. La garantie, c'est quoi? Ce n'est pas que l'État vienne pour désarmer les milices et puis laisser les différents villages comme ça et passer. Mais la garantie, c'est que partout où ces milices sont présentes, si l'État vient, on les désarme et il y aura des militaires qui vont assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, il n'y a pas d'autre garantie plus que ça. Vous nous désarmez, vous restez. C'est du donnant-donnant. Pour nous sécuriser. Donc, mais si vous nous désarmez et passez, là aussi c'est un problème. Donc maintenant il faut que l'État parvienne à avoir l'effectif nécessaire pour sécuriser chaque zone. Ce n'est pas que les grandes villes. Il y a les villages, il y a des petits hameaux qui sont là. Donc maintenant ça demande beaucoup de choses à faire. Donc maintenant je ne sais pas. Comme je ne suis pas dans les secrets de l'État ou du pouvoir, donc ils sont les seuls à savoir ce qu'ils ont choisi pour pouvoir désarmer ces milices d'autodéfense. Sinon, c'est la chose que tout un chacun veut aujourd'hui. Les désarmer, les réintégrer, les réinsérer dans la vie active pour qu'ils ne partent pas dans d'autres activités comme le banditisme ou autre.
D'accord. Docteur Ali Tungara, rapidement, comment l'État doit s'y prendre? On a dit qu'il y a des préalables quand même qu'il faut mettre en place d'abord avant de passer. Mais comment ce processus-là doit se faire? Est-ce que ça doit aller vite ou on va demander aux groupes armés de déposer les armes ou bien il faut passer par de la sensibilisation? Comment vous voyez les choses?
Je pense que le séquençage est une nécessité absolue pour arriver à un désarmement à terme. J'ajouterais le mot à terme parce que ça va prendre du temps. Mais il est quand même important de rappeler rapidement qu'il y a quand même des défis, notamment même si M. Tesuke estimerait que Kaskasugu estimerait que le groupe serait favorable lorsque l'État arrive à prester les services essentiels de sécurité. Mais sauf que les responsables d'un nombre important de groupes aujourd'hui sont quand même réticents à ce que les éléments abandonnent ce mouvement pour que soit incorporé dans l'armée régulière. Pour preuve, les différents programmes spéciaux qui ont été dirigés à l'endroit des régions du centre du Mali, ces programmes ont été sabotés par des leaders de ces différents groupes. Donc pour vous dire qu'il y a toute une économie criminelle qui est née à la suite de ces mouvements, laquelle économie criminelle, beaucoup trouveraient leur peine dans cela que le retour à la normale. Maintenant, je pense que, comme préalable rapidement, il faut procéder à une cartographie actualisée de ces groupes d'autodéfense. Ils sont affaiblis dans pas mal d'endroits, mais au-delà d'être aussi très lucides dans les processus de recrutement, il ne faut pas que des jeunes quittent les centres urbains pour aller justement se faire enrôler dans les différents corps de l'armée, étant donné que les vrais acteurs qui sont dans les terroirs sont mis sur la touche. Et dernier élément, il est important aussi que l'État comprenne que le processus, il s'appelle le long temps. Vouloir à tout bout de champ arriver au terme de la présence de ces groupes d'autodéfense, on risque justement de grossir les rangs de l'ennemi, ce qui n'est pas laissé aux autorités.
Alors, Monsieur Kasogé Baba, qu'est-ce que vous avez ajouté à cela en termes de conseils, de recommandations à l'endroit des autorités pour que ce processus puisse réussir?
Bon, tout ce que moi j'ai à dire au niveau des autorités, c'est que le centre a trop souffert. Hein. Le centre a trop souffert. Si nous récapitulons aujourd'hui, il y a combien d'établissements scolaires fermés?
C'est des centaines.
Combien de centres de santé fermés? Combien de choses, comment je vais appeler ça, l'administration qui n'existe plus dans les zones? Il n'y en a plus. Et là, ça va faire un grand manque à gagner. Prenons seulement le cas des enfants qui ne vont plus à l'école. Pendant combien d'années? Plus d'une dizaine d'années.
Oui.
Ça fait des milliers et des milliers d'enfants qui n'ont plus eu le droit d'aller à l'école.
Oui, tout à fait.
Alors que ce sont les futurs commandeurs des choses, de l'État.
Tout à fait. Ce sont puisque, les futurs puisque nous sommes presque au terme, en termes de recommandations pour que le processus réussisse. Quoi.
Bon, pour que le processus réussisse, il n'y a aucun problème. Moi, je crois que c'est une question de sensibilisation de ces groupes armés. Il faut passer forcément à la par la sensibilisation. Et en ce moment, l'État il va faire ce qu'il peut faire.
D'accord.
Par rapport à ce désarmement.
D'accord. Merci beaucoup à nos invités. Docteur Ali Tounkara, il est spécialiste des questions sécuritaires, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S. Baba Kassogué de l'association Guina Dogon, il est le secrétaire au conflit, et Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali. On parlait aujourd'hui du désarmement des groupes d'autodéfense, une volonté qu'ont affiché les autorités de la transition. Vont-elles pouvoir réussir à le faire? La question reste posée. Ce débat a été mis en onde par Adjaratou Traoré. À la régie vidéo, il y avait Gagné Kanté. La modération a été assurée par Sekou Gadjigo. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.